Chapitre 3. Nous avons déjà dit que les sujets d'inquiétude chez la marquise étaient comme les dignitaires du clergé aux processions, c'est-à-dire que les moins importants marchaient les premiers. Or, dans l'énumération des contrariétés qu'elle avait confiées à Don Sylvestre, la marquise avait omis la principale, dont il est bon de mettre le lecteur au courant pour la clarté de notre récit. Elle venait de recevoir de sa sœur, marraine de Constantia, une lettre relative à un projet de mariage pour cette dernière. Le prétendu était fils d'un grand d'Espagne et, en faveur de ce mariage, la marraine assurait à sa filleule la totalité de son héritage. Cette union était d'autant plus avantageuse que le jeune marquis de Valdemar joignait à un mérite véritable le physique le plus distingué et une grande fortune. La marquise avait sondé sa fille à ce sujet et, à son grand étonnement, elle l'avait trouvée fort mal disposée pour cette brillante union. Conseils, prières, menaces, tout avait échoué devant la fermeté de la jeune fille. Aussi la mère n'osait-elle pas faire part à sa sœur de ce singulier entêtement qu'elle ne pouvait s'expliquer et qu'elle espérait bien vaincre. La marquise n'avait rien de la nature du lynx et attribuait à l'excentricité de sa fille un refus qui avait une toute autre cause. Deux années auparavant, un jeune officier d'artillerie, un peu parent de la marquise et nommé Bruno de Vargas, était arrivé à Séville pour y continuer ses services. Frappé fort jeune encore par des malheurs de famille, ce jeune homme, qui n'avait pas plus de 23 ans, était déjà grave et sérieux. Son caractère plut à Constance, et bientôt ils s'aimèrent tous deux d'un de ces amours énergiques et réfléchis que rien ne peut affaiblir chez des natures espagnoles. Il ne se dissimulait pas cependant que l'union d'un officier subalterne avec la fille de la marquise de Cortegane rencontrerait plus d'un obstacle, mais il comptait sur le temps, ce grand maître, pour les aplanir, sur leur constance pour les vaincre et se laisser bercer par la douce espérance. Bruno de Vargas était un des habitués des salons de la marquise, mais leur relation se bornait à ses banalités. « À vos pieds, madame la marquise !»« Bonsoir, Bruno, je suis bien aise de te voir !» Quant à la rieuse Allégria, bien qu'elle n'eût pas encore disposé de son cœur, elle n'en acceptait pas moins les hommages de ses adorateurs comme un tribut tout naturel dû à sa beauté, sachant très bien distinguer, au travers de cet encens qui brûlait devant elle, la main qui le lui offrait. « Ma sœur est bien sotte, pensait Allégria, de laisser échapper une si belle occasion de se marier, et cela à cause de ce beau ténébreux de Vargas qui n'en vaut certes pas la peine. Le proverbe a bien raison de dire « La fortune n'est pas pour qui la cherche, mais pour qui la trouve ». En arrivant chez la marquise, Clémence a reçu, dans la société de sa tante, l'accueil le plus enthousiaste. Pendant plus de 8 jours, il n'y eut qu'une voix à Séville pour célébrer sa candeur et sa beauté. Ce fut une de ces ovations spontanées, arrachées pour ainsi dire de force, à un monde dont l'aumône est, comme celle de l'avare, courte et donnée de mauvaise grâce. En revanche, l'accueil de sa tante et de ses cousins ne fut pas très cordial. Mais on est si confiant au début de la vie. Et d'ailleurs, la jeune fille était si bonne, si simple, si naïve et si peu exigeante que, loin de s'en apercevoir, elle ne trouva dans son cœur que des sentiments de reconnaissance. Mais bientôt, cet enthousiasme du monde se refroidit sans savoir ni pourquoi ni comment. L'étoile, saluée à son apparition des plus vifs applaudissements, perdit son éclat et fut reléguée au dernier rang, comme si un voile épais fût venu l'éclipser. Il avait suffi d'un mot dédaigneux de Constantia, provoqué par une parole naïve échappée à Clémence, d'un sourire moqueur d'Allégria ou d'une aigre réflexion de la marquise, pour qu'il fût convenu dans le monde que Clémence était une personne assez jolie, mais fort insignifiante. Tant il est vrai que le monde nous fait paraître bien souvent ce que nous ne sommes pas. La pauvre enfant, humiliée et repoussée, pleura et douta d'elle-même, mais elle n'essaya même pas de lutter, et par un instinct de dignité méconnue, elle s'empressa de se mettre, de son propre mouvement, à la place qu'on voulait lui voir occuper. Telle on voit la violette naître et mourir à l'ombre où elle est née. touchant spectacle que celui de cette modestie qui s'ignorait elle-même, de cette bonté qui ne songeait même pas à se plaindre. Si, quelquefois, un mot trop dur faisait couler les larmes de Clémentia, il suffisait d'un regard bienveillant pour sécher ses larmes et ramener le sourire sur ses lèvres. C'est ce qui arrivait souvent avec sa tante. Bien que brusque et quelquefois brutale, la marquise était bonne au fond, et après avoir fait couler les larmes de sa nièce par quelques rebuffades, elle savait les tarir par quelques douces paroles et de petits présents qui remplissaient le cœur de Clémentia d'une douce reconnaissance. Un soir, la marquise, de plus mauvaise humeur que jamais, ne tarissait pas en reproches à ses filles. Constantia gardait un superbe silence, Allegria répliquait d'une manière fort peu respectueuse, et Clémentia se contentait de pleurer, lorsqu'entra, de son pas décidé, la gigantesque Dona Eufrasia, qui, chaque soir, venait prendre sa tasse de chocolat et faire le trésillo de la marquise. « Eh bien, toujours grondant, dit-elle en entrant, qu'avons-nous encore ?»« Ce que j'ai, un fils cervelé, dissipateur, qui tire sur moi, de Paris, une lettre de change de 30 000 réaux. »« C'est ta faute, plus tu paieras ses dettes, plus il en fera. Le prodigue est comme l'ivrogne, plus il boit, plus il a soif. » « Ce que j'ai, poursuivit la marquise, les filles les plus mal élevées, les plus désobéissantes, les plus impertinentes. À toi la faute, tu ne sais pas maintenir la discipline dans ta maison. Cette constance, qui a bien le caractère le plus indomptable, avec du pain et de l'eau, on rend les plus rebelles souples comme un gant. Songe qu'elle a 19 ans, fit observer la marquise. « Le pain et l'eau conviennent à tous les âges, » répliqua durement la Virago. « Ce que j'ai, » poursuivit la marquise, « j'ai cette Allegria qui ne pense qu'à se divertir et me persécute depuis ce matin pour la mener à la promenade, comme si je n'avais rien de mieux à faire. » « Tu refuses et tu as raison. Les filles sont faites pour rester au logis. C'est dans la boutique que se vend le bon drap, comme dit le proverbe. » « Oui, mais je répondrai par un autre proverbe, le bon drap se pique dans l'armoire, » répliqua Allegria d'un ton effronté. « Taisez-vous, impertinente, » dit la marquise. « Hélas, Euphrasie, ce que j'ai la nièce la plus pleurnicheuse du monde, elle pleure à propos de tout. Voyons, mademoiselle, pourquoi pleurez-vous à présent ?»«
Pour rien, ma tante. »«
Bah, bah, laisse-la pleurnicher, » dit Dona Eufrasia. « Faut-il donc s'occuper des larmes de ces mijaurées ?»«
Mais le pis de tout, » poursuivit la marquise, « c'est que Juan me quitte. Je ne sais quelle mouche l'a piqué, mais il n'y a pas moyen de le retenir. »«
Je le savais et je connais la mouche, » répliqua Dona Eufrasia. « Toi et comment ?»«
Sa novia est sœur d'une femme de chambre de la générale et je sais de bonne source que Juan a la promesse d'une place de sereno. »
Juan, garde de nuit, lui, le plus grand dormeur du monde, Séville sera bien en sûreté quand il sera de garde.
Mais sois tranquille, marquise, j'ai pour toi le phénix des domestiques.
Vraiment, ma chère, exclama la marquise, tu me combles de joie, la race des bons domestiques va se perdant de jour en jour. Es-tu sûre de ton homme?
J'en réponds sur ma tête.
Tu le connais?
Il m'a servi pendant 20 ans de brosseur. C'est un domestique comme on en voit peu, formé par mes mains, fait à mes habitudes.
Cette particularité d'être fait aux habitudes de Dona Eufrasia terrifia les deux sœurs, mais combla de joie la marquise, qui poursuivit son interrogatoire.
Boit-il?
De l'eau.
Est-il coureur?
Sage comme une nonne.
Est-il discret?
Comme un cachet.
Son caractère?
C'est un agneau.
Fume-t-il?
Jamais.
Est-il propre?
Comme de l'or.
Est-il adroit?
Comme un singe.
Allons, dit la marquise, voilà au moins une petite consolation au milieu de toutes mes afflictions.
Merci, Eufrasia. Tu as été pour moi une vraie planche de salut.